Vous écoutez RTL.
Tout de suite dans la curiosité des parfums de légende. Bonjour Anne Davis.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste et vous vous passionnez pour ces parfums qui envoûtent des millions de Français, des millions d'humains et qui racontent une histoire. Et c'est ça qui nous passionne dans la curiosité. Alors avant de sentir Chanel numéro 5, Chalimar, Angel et d'autres parfums encore, quelques questions techniques. Pourquoi est-ce qu'on appelle un parfum un jus ?
Oh, c'est un terme très familier chez les parfumeurs. En fait, c'est la solution alcoolique du concentré du parfum. On emploie ce mot-là, surtout dans ce milieu. C'est pas tellement commercial. Mais c'est le parfum, en fait.
Mais c'est vrai que c'est des mots qu'on croise en lisant la presse ou qu'on entend, donc c'est bien de savoir les maîtriser. Il y a aussi un mot qu'on entend souvent, c'est le mot note. Ce parfum a des notes de tête, de cœur, oui, de fond. Alors, pour qu'on ait l'air un peu moins idiot, ça veut dire quoi?
Par exemple, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
En général, il y a trois notes dans un parfum. Il y a la note de tête, qui est celle que l'on sent dès qu'on ouvre le flacon, qui s'évapore assez vite. La note de cœur, qui est vraiment le fond du parfum. Et la note de... pas vraiment le fond, mais qui le caractérise, si vous voulez. Oui. Et la note de fond, c'est ce qu'on rajoute pour que le parfum tienne mieux et laisse un sillage derrière soi. Ça le rend plus fort.
La note de fond, ce que disait Sidonie tout à l'heure, c'est celui qui va peut-être un peu rester sur les vêtements.
Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. En général, ça permet justement de laisser un sillage plus profond.
Quelle belle histoire.
Est-ce qu'on sait combien de parfums ont été créés en France depuis le début de l'histoire? Est-ce qu'on peut raconter les coulisses de la création d'un grand parfum? Au hasard, le numéro 5 de Chanel? Ben oui, vous êtes sur RTL, vous êtes dans la curiosité. Il faut rester avec nous, bien sûr.
RTL.
I love you.
Chanel, number 5.
So I Chanel, number 5.
Il a mis toute la bouteille. Bouteille de parfum 6000.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, moi ça pue.
Il n'y a que Jacouille pour dire que ça pue, hein, ce parfum Chanel numéro 5. Mais quel idiot de tout vider comme ça dans la baignoire.
Ah oui,
mais
vrai.
Quelle idée, on n'aurait jamais fait ça,
personne.
Nous. Heureusement, il n'a pas touché à Chalimar, ni à Angel, ni à Opium. Des parfums mythiques, des flacons inoubliables. On vous dévoile l'histoire de ces fragrances avec la journaliste Anne Davis. Le parfum de tous les parfums, c'est quand même Chanel numéro 5. C'est en tout cas le plus connu. Et quand Coco Chanel, star de la haute couture en France dans les années 1920, décide de créer son propre parfum, pourquoi c'est une véritable révolution?
Parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de couturier qui ait son propre parfum. En général, ils avaient des parfumeurs, mais ce n'était pas sous le nom du couturier.
Qui c'est qui va créer ce parfum pour elle?
Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Ernest Beau, qu'elle a rencontré grâce au grand-duc Dimitri de Russie.
Qui était son amant, non?
Oui, qui était un de ses amants, entre autres, parce qu'elle en a eu beaucoup. Et qui a beaucoup travaillé en Russie, et qui, comme ça, le connaissait. Et quand ils se sont rencontrés, ça a été une espèce de coup de foudre entre Coco Chanel et lui. Et il s'est dit, c'est lui ou personne d'autre pour faire mon parfum.
Alors on s'imagine, on est au début des années 20, Coco Chanel et Ernest Beau, réunion au sommet. Quelle consigne lui donne Gabrielle Chanel pour créer ce parfum, le premier parfum de sa marque? Qu'est-ce qu'elle lui dit?
Elle lui dit, moi je veux pas du tout des parfums qui existent déjà, qui sentent juste un peu la rose par-ci par-là, un peu la violette. Moi je veux quelque chose de très fort, qui soit vraiment une odeur féminine, avec énormément de jasmin et énormément de rose, qui ne s'était jamais fait jusqu'alors, parce que ça coûte très cher comme matière première.
Alors il revient, il travaille, Ernest Beau, il revient avec 9 parfums différents.
Oui, en fait il y en avait 10.
D'accord. Comment elle réagit, Coco Chanel?
Elle réagit, il faut qu'elle les sente l'un après l'autre. Au début, elle n'a pas l'air très très emballée. Mmh. Et puis, elle recommence. Et puis là, sur le cinquième, elle se dit, non, ça, c'est vraiment cette fois, c'est celui-là, c'est formidable. C'est exactement ce que je voulais, vous êtes merveilleux, vous avez trouvé la formule.
Anne Davis, vous publiez cette fabuleuse histoire dans Parfum de légende qui paraît aux éditions Bartia. Qu'est-ce que Chanel numéro 5 a de spécial? Pourquoi Coco Chanel est complètement envoûtée?
À cause justement de cette quantité de jasmin et de rose qui en font un parfum très particulier. Et puis c'est la première fois qu'on compose vraiment un parfum avec ce qu'on appelle les aldéhydes, qui sont des molécules chimiques, ouais, mais qui existent dans les agrumes et qui permettent d'exalter vraiment les odeurs.
Et comment, elle lui demande Coco Chanel à Ernest Beau, mais comment vous avez pu trouver ce parfum dont je rêvais, cette senteur dont je rêvais? Et il va lui parler de cercle polaire, c'est quoi le rapport? rapport?
Le rapport, c'est qu'il lui raconte qu'en fait, il avait un peu imaginé ce parfum à une époque où il était au cercle polaire. Il revenait d'une campagne militaire en Russie et il y avait des odeurs de lac, de forêt et tout ça lui avait évoqué un parfum et il lui a dit, au fond, c'est un peu la base de ce que j'ai créé.
Alors, grâce à vous, j'ai enfin compris pourquoi ce parfum s'appelle numéro 5. C'est absolument limpide maintenant, puisqu'il y en avait 10, et donc c'était le cinquième de la liste. C'est aussi
oui,
simple
que ça. Oui, encore
que
c'est pas si simple, puisqu'il y en avait 10, mais comme il en avait fait 24, les autres, c'était de 20 à 24. Alors, ça aurait pu s'appeler autrement.
D'accord. Et c'est son chiffre préféré?
C'était
pourquoi
son chiffre préféré. Sa collection qui allait avoir lieu quelques temps après était le 5 mai, donc 5-5. Mm-hmm. Et puis, c'était aussi le chiffre préféré du grand amour de sa vie, Boy Capel, qui était mort peu de temps.
On va parler du flacon de ce numéro 5, mais d'abord, cette question générale que j'ai évoquée tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas la réponse, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait combien de parfums ont été créés en France depuis le début de cette histoire?
Moi, je ne sais pas exactement, certainement plusieurs centaines, mais vous savez, il en disparaît aussi tout le temps. Il s'en crée des nouveaux. Oui. Bah, par exemple, chez
Guerlain...
Parce
que ça ne marche pas, parce que le public n'en
veut
pas...
Oui, parce que c'est démodé, ou chez Guerlain, ils ont supprimé pas mal de parfums, et ça arrive assez souvent. Ce n'est plus dans l'air du temps.
Ouais. Alors flacon.
Ah oui, d'accord, on parle du flacon alors. Ah oui. un flacon original, pardon, moi j'étais partie sur
ouais,
une
c'est
note,
un très
bon
beau flacon en cristal de Baccarat, mais c'est en cristal de Baccarat, mais c'est un flacon classique qu'elle avait pris dans les trousses de toilette des hommes parce qu'elle trouvait.
Oui, il est très austère, il est très rectangulaire.
Très, 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 très austère, mais très beau, et elle trouve que ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur.
Si on revient à la senteur, à la fragrance, si on applique vos notes, les notes de tête, notes de cœur et notes de fond de Chanel numéro 5, c'est quoi?
Alors, les notes de tête, c'est l'ylang-ylang et le néroli, qui est une sorte de fleur d'oranger. Et ensuite, dans la note de cœur, il y a jasmin et rose, mais dans des quantités terribles. Et puis, pour la note de fond, elle a mis du santal, de misor et du vétiver. Et c'est ce qui donne une espèce de puissance aussi au parfum.
Bon, on a le parfum, on a le jus, on a le flacon.
Et maintenant, le business?
Maintenant, il y a le business. Est-ce qu'elle le commercialise tout de suite, Coco Chanel?
Pas du tout. Elle était très drôle pour ça. Elle a commencé à en faire fabriquer quelques flacons qu'elle distribuait à ses amis ou à ses meilleures clientes en disant, voilà, j'ai trouvé un petit parfum qui m'a l'air très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis évidemment, tout le monde s'est précipité, a dit, mais on en veut, on en veut. Oui. Donc du coup, elle a été obligée de le commercialiser.
C'est une bonne technique à ancrer la rareté et du coup, tout le monde en veut.
Ouais. La recette n'a pas changé de Chanel numéro 5 depuis les années 20?
Ça n'a pas changé, sauf que depuis quelques années...
Ça fait presque 100 ans.
Oui, depuis quelques années, on a fait des sortes de dérivés d'eau de Chalimar, de Chanel numéro 5, oui. De souffle de Chanel. Enfin bon, elle a essayé de décliner pour que ce soit plus abordable pour un public plus jeune. Enfin, c'est pas elle, c'est le nez actuel.
Et ça coûte combien un parfum Chanel numéro 5, si on veut s'offrir ça?
Oh, le plus petit doit être dans les 85 euros et en eau de toilette, parce qu'il y a aussi les extraits, il y a l'eau de cologne.
C'est un vrai produit de luxe.
Et il y a tous les produits dérivés qui sont merveilleux, les crèmes de douche, tout ça c'est merveilleux.
On continue notre tournée des grands parfums. On vous raconte maintenant l'histoire de Chalimar de Guerlain, un jus qui raconte une grande histoire d'amour. Restez avec nous, les curieux sur RTL.
RTL.
Oula, c'est pour du parfum, j'imagine, pas pour du monde.
Thomas Hugues.
Est-ce qu'on partirait pas finalement sur un Banana Moon de chez Guerlain?
Sidonie Bonnec.
En même temps, Papa et Coco de chez Fébrez, ça vous irait très bien. Hein.
La curiosité est un vilain défaut.
Sketch, extrait de sketch signé Ahmed Silla sur RTL pour évoquer donc notre histoire de parfums.
Il les a bu les parfums là, non? Il a un peu tout mélangé, je crois.
Oui, c'est très drôle. Mais les parfums de légende, voilà ce que l'on vous raconte sur RTL dans la curiosité avec la journaliste Anne Davis. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, c'est quoi ton parfum? C'est du lien social aussi le parfum.
Oui, c'est du lien social et puis il y a des personnes qui n'en changent jamais, d'autres qui en changent tout le temps, donc c'est assez étonnant pour ça.
Et est-ce que on peut avoir plusieurs parfums, c'est-à-dire un parfum par saison ou par, par événement.
Oui. Je trouve que c'est très bien d'avoir un parfum l'été et un parfum d'hiver.
Vous avez un parfum d'été et un parfum d'hiver?
Oui.
C'est quoi? On peut vous demander, c'est un peu intime.
Le
c'est quoi,
parfum d'été, c'est Fleur d'Oranger de Lutin. C'est le parfum d'hiver, c'est Heure Exquise d'Annick Goutal.
Alors peut-être que certains de nos auditeurs se parfument au Chalimar, ou peut-être que c'était votre maman qui le porte, qui sait. Le flacon, lui aussi, est inoubliable. On va commencer par le flacon.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, Anne Davis ?
Le flacon, il a été copié sur une vase qu'on trouve dans les jardins indiens, puisque c'est inspiré par une légende indienne. Donc Jacques Guerlain, qui l'a créé, a beaucoup insisté pour que ça ressemble à ces vasques que l'on trouve dans les jardins indiens.
Il a quelle couleur ce flacon et il a quel type de bouchon ? Il est assez emblématique.
Oui, il est blanc, mais il a un bouchon bleu en forme d'éventail.
Ça y est, je l'ai visualisé.
Vous l'avez ?
Voilà, je l'ai.
Bon, maintenant, merci. On va entrer dans la senteur. Anne Davis, vous publiez Parfum de légende aux éditions Bartilla avec Bertrand Meyer Stablé. Et alors, ce flacon, justement, et ce parfum, ce nom de parfum, Chalimar, raconte une immense histoire d'amour. Est-ce une légende ou une vérité ? Vous allez nous la raconter.
C'est une immense histoire d'amour, effectivement. Enfin, c'est une légende, mais je pense que Shah Jahan a dû exister. C'est un homme qui était amoureux fou de sa femme. Il lui a fait 13 enfants et elle est morte en couche au 14e. Donc, il a été absolument désespéré.
Il l'aimait un peu trop, peut-être, là.
Oui, peut-être.
C'est une autre époque.
Oui, enfin, il n'avait pas la pilule. Et évidemment, il était tellement effondré qu'il a voulu lui faire un mausolée magnifique. Et c'est comme ça qu'il a fait construire le Taj Mahal.
Ah, donc c'est l'histoire qui est à l'origine, ou la légende qui est à l'origine du Taj Mahal.
Oui,
donc on comprend que ça puisse inspirer Guerlain qui crée ce parfum. On est à quelle époque, la création de Chalimar ? C'est quand ?
C'est dans les années 20. Et Jacques Guerlain, il créait toujours des parfums pour les femmes qu'il aimait. Donc ça, c'était encore une femme qu'il devait aimer. Et on dit qu'il n'a jamais été en Inde, mais il était fasciné par cette légende.
Alors pour créer ce parfum Chalimar, Jacques Guerlain va travailler avec un chimiste. Qu'est-ce qu'il va lui proposer ce chimiste ?
Alors ce chimiste, Justin Dupont, avait découvert une sorte de vanille synthétique, une éthyle vanilline, et qui lui a apporté en lui disant « voilà, c'est nouveau ». Et déjà Guerlain avait créé Jiki et il a mis une partie de cette vanille dans Jiki, qui était au fond la base un peu de Chalimar, parce qu'il a trouvé que c'était formidable.
Donc il utilise un parfum qui existe déjà,
oui,
c'est ça, j'ai bien compris.
Oui.
Okay.
Pour expérimenter cette nouvelle vanille synthétique, et il se dit, mais ça, c'est une base formidable, et c'est à partir de cette base qu'ils ont conçu le parfum.
En vous écoutant, je me dis que l'histoire de ces parfums de légende, c'est à la fois de la poésie, et de la technique, de la chimie,
il y a
de ça,
de chimie,
c'est ça.
Oui, oui.
C'est-à-dire que les parfums évoluent au gré de la technologie, au gré du travail des ingénieurs, c'est ça, ou des biochimistes.
Malheureusement d'ailleurs pour nous, parce qu'avec les nouvelles directives européennes, il y a beaucoup de senteurs naturelles qu'on n'a plus le droit d'exploiter, ce qui fait que les parfums ont un petit peu changé dans les effluves qu'ils peuvent dégager.
Ernest Beau, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le chimiste ou le créateur,
le nez.
Qui a créé Chanel numéro 5. Qu'est-ce qu'il va dire de Chalimar quand il va le sentir, ce parfum ?
Quand il a su qu'il y avait autant de vanille dedans, il a dit « Moi, si j'avais mis autant de vanille, j'aurais pu faire qu'une crème à la vanille. » Mais Jacques Guerlain, lui, il en a fait Chalimar.
C'est l'humilité aussi du bonhomme. Hein. Il y a une autre senteur dans le Chalimar, c'est la bergamote.
Oui, il y en avait déjà dans Jiki et il a fait augmenter le pourcentage en bergamote.
C'est un parfum qui va avoir un grand succès, Chalimar, très rapidement.
Ah oui, oui, oui. Surtout qu'il a un prix en 1925 au Musée des Arts Déco. Il a le premier prix, et, pas au musée, à
l'exposition
internationale
des Arts Déco.
Ouais. Donc tout de suite, ça va démarrer très vite.
Et ce parfum, ce Chalimar, est-ce qu'il a été porté par des stars, j'imagine, lesquelles ?
Alors, Chalimar, oui, il a été porté par Simone Signoret, entre autres. Donc, vous pouvez suivre son sillage de Chalimar.
Dans votre livre, j'ai noté Mylène Farmer,
Anne Sinclair,
Estelle Lefébure.
Oui, oui, Jane Birkin, Ornella Muti. Il y a beaucoup de femmes. Je crois que presque toutes les femmes ont dû l'essayer. Peut-être
est-ce que ça
qu'elles
dessine
l'ont pas
une,
tous porté, mais...
une personnalité de femme ? Quand on porte du Chalimar,
C'est très, très féminin. C'est vraiment un parfum.
Donc on est glamour,
j'allais
on est sexy.
J'allais dire capiteux aussi. Est-ce que le terme
non, capiteux,
il est un peu péjoratif, ce terme-là, pour un parfum ?
Bon, ça dépend si on aime les parfums capitaux.
Vous avez raison.
Mais
j'essaie de mettre au niveau, j'y connais rien.
Je ne trouve pas capiteux.
Pas non,
je dirais plutôt ça d'Angel, mais pas de.
Ah bah justement.
Pas de Chalimar.
Bien, parce que Angel, c'est le parfum dont on va parler dans un instant. Une friandise, c'est comme ça que Thierry Mugler en a parlé la première fois. C'est cette friandise qu'il voulait offrir aux femmes. On vous raconte l'histoire d'Angel sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec.
Coco Mademoiselle. Chanel.
Thomas Hugues.
Sauvage. Dior.
Black Opium. The New Feminine Fragrance. Yves Saint Laurent.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais votre parfum est fantastique. Qu'est-ce que c'est ?
C'est mon odeur quand je transpire.
Faire attention à ne pas faire de bourde, évidemment, il faut avoir le nez un peu fin. C'est une senteur qui dessine une personnalité, qui fait tomber sous le charme, qui rappelle des souvenirs. Les parfums de légende sont dans la curiosité du jour avec la journaliste Anne Davis. Nous étions dans les années 20 avec Coco Chanel, avec Jacques Guerlain. Là, on va atterrir dans les années 90. Quel parfum rêve de créer le couturier Thierry Mugler ?
Mais il rêve de créer un parfum qui soit à la fois onirique et rayonnant. Ce sont ces termes.
Allez, débrouillez-vous les chimistes.
Exactement. Et surtout qu'il soit un parfum pour des femmes de caractère. Donc ça, c'était très important pour lui.
Et il parle de friandise, c'est ça ? C'est le
terme qu'il emploie ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de vanille, de chocolat, de caramel.
Le fameux capiteux, parfum capiteux de Thomas Hugues.
Oui, c'est ça, oui. qui ressemble beaucoup à une friandise, oui, effectivement.
Bon, alors quand on donne de telles consignes à ces chimistes ou à ces nés, je ne sais pas si c'est facile, il y aura combien d'essais pour aboutir à Angel ?
Il en a fait, je crois, 630.
Hein, combien ?
630, je crois. Ah, oui.
C'est classique ou c'est beaucoup comme...
Oh non, c'est beaucoup.
Ça me rassure.
C'est quand même beaucoup.
Alors, il y a une senteur mémorable, capiteuse, chocolatée, sucrée, et un flacon qui est aussi, lui, mémorable, mais qui a donné du fil à retordre.
Ah oui, parce qu'il est en forme d'étoile, il est en verre. Ouais. C'était très, très difficile à concevoir.
Attendez, c'est une étoile, c'est ça,
oui,
en verre ?
Oui, une étoile en verre bleu. Qui est très belle d'ailleurs, c'est très joli, mais c'est tellement compliqué, ça revient tellement cher qu'il a eu l'idée, un des premiers, à dire si vous n'avez plus de parfum, venez donc vous réapprovisionner et avec votre flacon vide et on vous le remplit. Comme ça, ça a évité de refaire toutes les étoiles.
Il lance le flacon rechargeable dans les années 90. Et il y a un rituel aussi pour poser sur soi le parfum Angel. On ne le pose pas n'importe comment, ce n'est pas de pchit sous les oreilles.
C'est un rituel qui est souvent utilisé pour les parfums en général. Enfin, lui, c'était un des premiers peut-être à le dire. Il fallait s'enduire de crème hydratante. Il fallait projeter du parfum à 40 cm de soie, traverser le nuage de parfum.
Ah, j'adore.
Oui, mais c'est assez joli, je trouve.
C'est
et ensuite, mettre au point de pulsation un petit peu de parfum encore, c'est-à-dire derrière les oreilles, au poignet, dans le pli du coude.
Bon,
donc, il faut poser des RTT, mais ça n'existait pas encore à l'époque.
Il faut avoir du temps.
J'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour parler d'un parfum pour homme, quand même. Et allez, on a choisi pour un homme de Caron. On est dans à quelle époque ? Ça naît
dans les années 30, 1934.
C'est nouveau, un parfum pour homme ?
Oui, c'est nouveau, parce que jusqu'à ce moment-là, on avait toujours des espèces de lotions après rasage qui sentaient un peu la lavande, enfin des choses comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment de parfum créé pour un homme.
Et alors, il sent quoi ? Quelles sont les fragrances ?
Alors, il sent la lavande, effectivement, comme sentaient autrefois les savons à barbe. Mmh. Mais surtout, il a rajouté beaucoup de vanille. Il a mélangé lavande et vanille.
On dit que c'est le parfum des présidents pour un homme de Caron.
Ah oui, il y a beaucoup de présidents qui l'ont mis. Chirac.
Mitterrand l'aimait bien aussi ?
Mitterrand. Il y a aussi des journalistes ou des couturiers comme Tom Ford ou Patrick Poivre d'Arvor, paraît-il, l'a porté beaucoup.
Est-ce qu'on sait ce qu'Emmanuel Macron porte comme parfum ?
Je travaillais avec lui longtemps, je ne me souviens plus de l'odeur du parfum.
Ah oui, peut-être que vous ne le sentiez pas beaucoup.
Il avait peut-être changé.
Ah, c'est pas mon temps à le renifler, c'est ça l'histoire.
C'est ce que j'allais dire.
il avait pu changer.
Sans doute, oui, sans doute.
Est-ce qu'Emmanuel Macron porte opium comme parfum ? Tiens, peut-être.
Ça
un parfum de scandale en ce moment.
Oui, ça m'étonnerait parce que c'est quand même plus un parfum de femme. c'est vrai. Qu'un parfum d'homme.
C'est vrai. Il est lancé
en... C'est Yves Saint Laurent qui lance Opium, oui, c'est oui. ça années 70.
Il a fait scandale avec ça.
Pourquoi ? À cause du nom ?
À cause du nom, d'abord parce que lui-même était assez réputé pour être un petit peu addict à certaines drogues. Oui. Et puis Opium, oui, ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, entre autres. Et quand il a voulu le lancer là-bas, et en Chine, parce que les Chinois trouvaient que c'était inciter les jeunes à se droguer.
Mais c'est un coup marketing, Opium de Saint-Laurent, ou c'est un grand parfum ? Il entre dans les parfums de légende ?
Il entre dans les parfums de légende parce qu'il est resté, mais c'était un coup marketing au départ parce que ça, c'était pour aller avec sa collection Les Chinoiseries. Donc c'est pour ça qu'il l'avait lancé à ce moment-là.
On a entendu tout à l'heure quelques extraits de publicité pour les parfums. Et moi, j'ai en tête ces publicités longues qu'on voit parfois au cinéma qui coûtent très très cher. Ouais. C'est un enjeu économique majeur pour les géants du luxe, le parfum aujourd'hui.
Ah oui, parce que c'est quand même... c'est une chose qu'on peut tous... plus ou moins s'offrir quand
Bien
même.
Sûr.
S'acheter une robe Saint-Laurent, c'est plus difficile que de s'acheter Opium. Donc je pense que c'est une partie et très très importante de la partie commerciale d'un couturier, sûrement. Oui.
Merci infiniment,
Anne
Davis. C'était passionnant. Vous publiez avec Bertrand Meyer, tablé aux éditions Bartia, parfum de légende, plein d'autres parfums et d'histoires à découvrir.
RTL. De 14h à 15h, la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.